La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
La bibliothèque de Radio-Orient avec l'écrivain, poète et dramaturge Mohamed Kassimi. Vous avez traduit de l'arabe Palestine en éclat, anthologie de la poésie palestinienne féminine contemporaine de Nida Younis aux éditions Almanach. Un livre illustré par la peintre Colette Deblé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Mohamed Kassimi, c'est un livre très émouvant. Cet ouvrage nous donne à lire et à entendre des voix de poétesses palestiniennes d'aujourd'hui. Pour donner une idée du sommaire, il y a des poétesses de Gaza qui ouvrent cette anthologie, des poétesses de Cisjordanie. Il y a celles qui vivent en Israël et celles qui écrivent depuis leur lieu d'exil. Dans votre présentation, que vous avez intitulée « Anthologie d'un peuple qu'on efface », vous expliquez que ce livre a vu le jour dans l'urgence. Comment est née cette anthologie ?
L'anthologie est née après les massacres du 7 octobre et au moment où on a vu Gaza disparaître de la surface de la terre petit à petit avec l'invasion israélienne et les bombardements qui n'ont pas cessé depuis. Donc il y avait une sorte d'urgence de voir, je travaille sur la Palestine depuis pratiquement une trentaine d'années, je suis intervenu à Gaza à maintes reprises, donc j'ai une grande proximité avec cette terre, avec ces gens, avec ces villes, et le fait d'assister à cette disparition programmée d'une terre, d'une histoire, d'une mémoire, je me suis dit, il faudrait quand même faire quelque chose. Et à ce moment-là, une amie, Nida Younis, qui est une poétesse palestinienne dont nous avons déjà publié un recueil chez Almanach qui s'intitule « Je ne connais pas la poésie » et qui est à l'avant-garde de la poésie palestinienne aujourd'hui, m'avait soumis cette anthologie qui est sortie à Beyrouth. Mais l'idée, elle avait fait une anthologie stricto sensu, alors que moi, j'ai dit qu'il faudrait compléter cette anthologie, à la fois pourquoi Palestine en éclat, pour traduire le morcellement du peuple palestinien depuis 1948, les Palestiniens de Gaza, celles de Cisjordanie, celles de Jérusalem, celles de l'intérieur, comme on l'appelle, les appels de Palestine 48, et les Palestiniens qui vivent aussi dans la diaspora. Et le fait de consacrer, de répartir ces poétesses, chacune selon un fragment du territoire, et de faire précéder chaque fragment ou chaque morceau de la Palestine éclaté par la colonisation, d'une présentation historique.
Alors Mohamed Kassimi, ce n'est pas un hasard si vous avez commencé par les poétesses de Gaza, et le livre s'ouvre par des poèmes de Hiba Abu Nida, qui a été tuée le 20 octobre 2023 sous les bombes à Khan Younes, quelques jours après les attaques israéliennes qui ont suivi les attaques du Hamas du 7 octobre. Une poétesse qui avait reçu des prix prestigieux, notamment la deuxième place du prix Sharjah pour un roman. Et ses poésies documentent précisément ce qui va lui coûter la vie. C'est à la fois un témoignage qui a une dimension politique, mais aussi universelle. Et puis, c'est un testament.
C'est un testament. Et puis, c'est une chronique d'une mort annoncée. Parce qu'elle le sait dès le début. Dans cette confusion que les Palestiniens ont vécue. Et c'est un document extraordinaire qui nous montre comment cette attaque ou comment cet événement a été vécu de l'intérieur par la population gazaoui. Et il ne figurait pas, ce texte qui est une page Facebook, en fait, ne figurait pas dans l'anthologie originelle. Et je l'ai ajouté à la fin comme une sorte d'ouverture ou de prologue qui donne le ton de toute l'anthologie, de voir cette mort qui arrive et la mort en face.
Et on peut lire un extrait de ce poème qui ouvre l'anthologie. Le 9 octobre à 16h52 précise. Lors des guerres précédentes, il y avait des schémas. Les cibles suivaient une logique. Une fois les familles, une autre les mosquées. Parfois les rues ou les immeubles, nous pouvions lire les trajectoires des avions, anticiper la durée de l'horreur. Cette fois, il n'y a ni schéma ni logique, tout est touché, le nord, le sud, le centre. Un bombardement aléatoire, dévastateur, total, un massacre collectif, un chaos absurde. Effectivement, ouais. C'est très émouvant de lire presque ces derniers mots.
Oui. Oui, et ça va jusqu'au moment où il y a un missile qui tombe sur la maison de sa famille et qui entraîne la mort de toutes les personnes qui vivaient là.
Vous qui êtes un fin connaisseur de la poésie arabe, Mohamed Kassimi, mais aussi de la poésie du monde, est-ce que vous percevez des liens avec ces poétesses et des poètes occidentaux, qu'il s'agisse des images, de la structure des poèmes, du souffle? Est-ce qu'on peut parler d'une fraternité poétique, quelles que soient les langues d'écriture?
Tout à fait, mais j'ai signalé à chaque fois quelles étaient les proximités poétiques de chaque poétesse avec un nom de poétesse occidentale. Et ce qui est frappant dans cette poésie féminine palestinienne, l'objectif c'était de dire, la poésie palestinienne, il y avait l'arbre de Mahmoud Darwish qui cachait toute la forêt depuis des années, depuis pratiquement 40 ans. La Palestine, c'est une sorte de métonymie, c'est Darwish. Il n'y a rien d'autre. Et depuis, il y a des arbres qui ont poussé, d'autres voix qui sont venues au monde. Et puis, on s'obstinait à n'entendre que la voix de Darwish, qui était une voix immense, c'est vrai, formidable, sensuelle, révoltée. Et il y avait ces voix de femmes qui sont arrivées sur la scène avec, je dirais, une radicalité, une modernité extraordinaire qu'on ne soupçonnait pas du tout et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les autres poésies du monde arabe, ce qui est étonnant. Et ce qui est plus frappant encore, c'est de voir chez certaines poétesses de Gaza qui sont vraiment en matière d'invention poétique bien au-delà des poétesses qui vivent aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. L'idée, c'était de faire entendre ces poétesses et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'elles vont abandonner le langage de la poésie militante de Samih al-Qasim, de Muayyen Bsissou, de Darwish des années 70, où la poésie était un champ de bataille, où la poésie était une terre de combat, pour ramener la poésie à l'intérieur de leur corps de femme. Et tout va passer par le corps, alors que la colonisation, avec son horreur, avec sa violence, va être comme une sorte, non pas de colonne vertébrale, mais toile de fond, qu'on devine dans les poèmes, comme c'est le cas de cette poétesse que j'aime beaucoup, Maya Boulhayat, dans son poème « Nos amis les soldats », et elle raconte le quotidien des Palestiniens avec une simplicité, une évidence extraordinaire. En quelques vers, elle dresse tout le tableau de l'horreur de la colonisation. Elle vit à Jérusalem maintenant.
Mohamed Kassimi, vous l'écrivez, les femmes de Gaza sont prises entre deux feux. D'un côté, la guerre et l'occupation israélienne, mais de l'autre côté, ces femmes sont confrontées aussi à une société patriarcale et conservatrice qui ne reconnaît pas leurs droits. C'est aussi cela que reflètent les poèmes écrits par ces femmes.
Je ne pense pas que ce soit uniquement le cas de Gaza. J'ai vu ces dernières années, après le démantèlement ou la faillite de l'OLP et de l'autorité palestinienne, la mainmise de plus en plus forte des religieux sur la société palestinienne, sur la société civile. Et donc, on a un retour, cette société qui était l'une des sociétés les plus ouvertes, les plus laïques du monde arabe, avec des partis de gauche comme le FPLP, comme le FDLP, comme le Parti communiste palestinien, faire un bond extraordinaire en arrière. Et aujourd'hui, je comprends que ce soit par instinct de survie ou par protection ou par ultime refuge de l'identité blessée par la colonisation. La société s'est repliée, comme l'ensemble des pays du monde arabe, dans l'espace du religieux, qui va bien sûr les premières victimes de ce repli identitaire, ce sont les femmes. Et donc, elles subissent une double répression ou une double oppression, à la fois de la part de la colonisation et à la fois de la part d'une société patriarcale et qui ne laisse à la femme que très très peu de liberté.
le grand paradoxe, c'est que ces femmes, aujourd'hui, ne peuvent pas se rencontrer physiquement. Et pourtant, leur voix singulière forme un chœur qui nous parle de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs amours, de leurs espoirs, et de leur révolte aussi. C'est de la poésie dans tous les sens du terme.
Ah oui, ça nous permet de faire un parcours et de voir la diversité des voix, que ce soit les femmes de Haïfa dont la voix est différente de celle de Jérusalem, qui sont différentes de celle de Cisjordanie ou celle des États-Unis ou de Gaza. Donc il y a un vrai cœur, mais qui dit aussi la diversité de la tonalité des voix. Et il faut savoir que la colonisation a rendu impossible une palestinienne de Ramallah ne pourra jamais avoir une relation ou se rendre à Jérusalem physiquement. C'est-à-dire que c'est complètement interdit. Une palestinienne de Gaza ne pourra jamais rencontrer quelqu'un de sa famille de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa ou de Saint-Jean-d'Acre.
C'est cela, la Palestine
en éclat. C'est ça, c'est la Palestine en éclat. C'est-à-dire qu'au-delà de la colonisation de la terre, il y a cette parcellisation, cette fragmentation du corps du Palestinien et du corps de la Palestine. C'est-à-dire que la colonisation a mis en place toutes ces barrières pour empêcher, pour réduire en miettes le corps palestinien, l'histoire palestinienne et la mémoire palestinienne.
Il y a aussi ces femmes palestiniennes qui vivent dans le territoire israélien, qu'on appelle parfois des Arabes israéliennes, des Palestiniennes de l'intérieur. Leur vécu est-il très différent de celui des autres poétesses palestiniennes ?
C'est une autre poésie parce qu'elles n'ont pas de rapport, je dirais, direct à la réalité coloniale. Après le partage de 48, celle de 48, là c'était plus des Palestiniens qui étaient des paysans, qui étaient attachés à leur terre, et non pas des citadins qui ont fui de Haïfa ou de Saint-Jean d'Acre ou de Nazareth, qui ont fui tout de suite et qui ont été obligés ou chassés, je dirais, par l'armée israélienne. Donc c'était plus des paysans qui ont échappé, disons, à la rafle de la Haganah à l'époque. Et contrairement à ce qu'on dit, cette population qui est de 1 million d'habitants aujourd'hui ne bénéficient pas des mêmes droits que les citoyens israéliens. C'est des citoyens de seconde zone. Les Palestiniens musulmans ne sont pas concernés par le service militaire. Il y a beaucoup de métiers stratégiques qui leur sont interdits. Et on a, à lire les poétesses, une image presque idyllique d'un paradis perdu, d'une Palestine perdue qu'elles recherchent dans leur poésie. Alors que dans la poésie des Palestiniennes de Cisjordanie ou de Gaza, nous sommes dans un rapport complètement frontal à la réalité de l'occupation et c'est une autre Palestine qui émerge dans leur écriture.
Et Mohamed Kassimi, vous avez traduit de très nombreux poèmes écrits en arabe depuis très longtemps. Vous êtes un homme de théâtre très sensible à l'oralité, à la façon dont sonnent les mots. Il est courant d'affirmer qu'il n'y a rien de plus difficile que de traduire de la poésie parce que le génie d'une langue est difficile à exprimer dans une autre langue. Alors, comment traduire sans trahir ?
Il y a une tendance chez beaucoup de traducteurs français de vouloir enjoliver la poésie. C'est-à-dire, on se dit, même dans la littérature, c'est-à-dire que chaque poème ou chaque texte qui arrive d'une langue étrangère, on va essayer de lui donner la forme la plus élégante et la plus présentable. Et ça, je m'insurge contre cette décoration, je dirais, du poème et de la langue. Et chaque fois, j'essaye de ramener le poème dans l'état où il est. C'est-à-dire, il est nu et il arrivera dans la langue arabe et il arrivera nu en français. Il est pieds nus dans la langue arabe, il arrivera pieds nus dans la langue française. Ce n'est pas mon métier de traducteur d'habiller, ni de coiffer, ni de maquiller un poème. C'est de le faire passer avec toute sa vérité. Et c'est ça ma ligne de conduite et ma vision de la traduction.
Parlons un peu aussi de Nida Younis, la poétesse qui est à l'origine de cette anthologie.
Alors, Nida Younis est une poétesse palestinienne qui vit à Ramallah depuis des années. Elle vient de soutenir une thèse de littérature à Tunis et elle a publié un certain nombre de recueils de poésie qui ont été préfacés par Adonis. Donc elle est très très active. Et c'est une voix très singulière dans la poésie palestinienne et je dirais même dans la poésie arabe. C'est-à-dire que Nida est quelqu'un qui met son corps, son vécu de femme au cœur même du poème. Alors qu'on a une poésie très très métaphorique dans le monde arabe, très très lyrique et qui cherche plutôt parfois la musicalité que la traduction du réel. Alors qu'elle, elle est vraiment dans une poésie du concret, du quotidien et une poésie qui passe par le corps de la femme. Et ce qui la distingue de l'ensemble des poétesses et des grandes voix de la littérature, de la poésie arabe contemporaine.
Merci Mohamed Kassimi. Je rappelle que vous avez traduit et présenté toutes ces poétesses présentes dans ce livre magnifique, Palestine en éclats, anthologie de la poésie palestinienne féminine contemporaine, des textes réunis par Nida Younes, avec de très belles illustrations de Colette Deblé, et c'est publié aux éditions Almanach.
Et je signale que les éditions Almanach ont publié un recueil de Nida Younes, « Je ne connais pas la poésie », également un très très beau recueil de poésie qui permet d'entendre la voix singulière de cette poétesse. Et qu'à la rentrée, on publie avec mon cher ami Alain une anthologie générale de la poésie irakienne contemporaine.
Alain Gorius, fondateur des éditions Almanach. Merci infiniment, Mohamed Kassimi, d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient.
C'était la bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.